Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'ouverture des données est à la mode, mais c'est aussi utile. En quoi peut-il servir dans une perspective de prévention de la corruption, me direz-vous ? Je vous propose d'écouter Jean-Marie Bourgogne, membre de l'association Open Data France, qui, à l'occasion de notre rencontre, va nous expliquer ce qu'il en est à ce sujet. Jean-Marie, bonjour. Jean-Marie, pourriez-vous nous dire ce qu'est l'ouverture des données publiques locales à des fins d'anticorruption ?
L'ouverture des données publiques, comme son nom l'indique, c'est la mise à disposition des informations publiques sous forme de données. C'est l'idée qu'il y a des données brutes derrière les documents structurés produits par l'administration. Historiquement, on peut faire remonter cette question de l'ouverture des données à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui dans l'article 15, qui est d'ailleurs publié dans tous les bâtiments publics, y compris dans les écoles primaires, dit que tout citoyen peut demander des comptes à l'administration. Si on regarde plus loin, on peut même faire remonter cette question de la transparence à la création de la démocratie et de la République, où Socrate et Platon discutaient déjà de cette question de la transparence et de l'invisibilité de l'acteur public. Mais c'est un sujet philosophique dont on reparlera plus tard. Cette question historique de l'open data, on le retrouve dans la constitution des grandes institutions nationales depuis lors. L'INSEE, l'IGN ont produit des données depuis toujours sur le territoire. Une grande étape a été franchie avec la loi CADA de 1978, qui est toujours applicable, je le précise, qui oblige les administrations à accorder l'accès aux documents administratifs à tout citoyen qui en fait la demande. On peut dire que depuis 15 ans, l'open data, puisque c'est le terme anglais qu'on emploie le plus souvent, est un mouvement beaucoup plus large, international, remontant d'ailleurs à l'administration Obama dans sa première présidence, qui s'intéresse à la publication de ces données sur Internet, c'est-à-dire des données publiques traduites dans un format informatique non contrôlé qui permet aux acteurs d'accéder à cette donnée-là à tout instant sur Internet. Ce sont en fait des informations qui constituent un patrimoine qu'on peut aussi appeler un commun numérique immatériel, qui est accessible à tous les citoyens pour une réutilisation libre. Il faut voir que la France est très en pointe sur ce sujet au niveau international. Elle est d'ailleurs première sur le ranking actuel au niveau mondial. Et ce classement international, s'il a été aussi bien traduit, c'est parce que l'État, à travers la DINUM et Etalab, accompagne depuis 10 ans les ministères et Open Data France, que je représente, accompagne les collectivités locales sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il faut savoir que 900 collectivités territoriales publient des milliers de jeux de données sur Internet, gratuitement en open data, sur des thématiques très variées. L'administration, la citoyenneté, les équipements, l'éducation, l'aménagement, l'économie, l'environnement. Donc, beaucoup de domaines, et on verra comment on pourra faire en sorte que ces données-là soient mieux appropriées par les citoyens.
Merci Jean-Marie pour ces informations. Dans la continuité de votre intervention, pourriez-vous nous dire quelle est l'étendue de l'obligation d'ouverture de données ?
La nouveauté dans la loi française date de la loi République numérique promulguée par Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique en 2016, qui rend obligatoire la publication des données, non plus à la demande, mais par défaut, par principe, pour toutes les collectivités de plus de 3500 habitants. C'est-à-dire que ces collectivités-là doivent produire au fil de l'eau, au moment où elles les produisent, toutes les données sur Internet dans un format libre et gratuit. Je précise qu'il s'agit des données qui ne sont pas protégées, protégées au titre de la protection des données à caractère personnel ou au titre d'un secret. Cette obligation est vraiment inspirée pour avoir plus de transparence administrative. Mais ce volet de la transparence n'est pas le seul, il reste deux autres grands enjeux dans l'ouverture des données, c'est l'innovation d'une part et l'efficacité des services publics d'autre part. C'est quelque chose de très conséquent comme obligation. Toutes les données sont publiées en open data. On voit que par rapport à cette obligation, toutes les collectivités n'ont pas les mêmes moyens. Ils n'ont pas la même facilité à produire ces données. Pour autant, même des petites collectivités sont libres de produire des données en open data, notamment, on y viendra sur le sujet de la transparence, et beaucoup le font par ailleurs. Mais à partir du moment où vous êtes une petite collectivité, la question c'est comment je peux m'assurer que je sais produire ces données-là dans des bonnes conditions. On peut considérer que les données publiques ouvertes ou open data sont des communs informationnels. Et pour cette raison, la loi considère que ce partage doit être par défaut gratuit, sauf à quelques exceptions, ce qui confirme son caractère de service universel.
Bien, mais en pratique, comment cela se passe-t-il ?
Les données personnelles sont bien évidemment particulièrement protégées. Il est hors de question de les rendre publiques. Il y a plusieurs volets dans la loi, la réglementation pour la protection des données personnelles, le règlement général qui est entré en vigueur en 2018 est largement appliqué dans les collectivités en raison des pénalités auxquelles s'exposent les collectivités qui ne les respecteraient pas. Il peut y avoir d'autres exceptions, la sécurité du territoire, le droit intellectuel ou commercial, qui font que certaines données ne sont pas rendues publiques de manière systématique. Mais une fois que vous avez éliminé ces contraintes réglementaires parfaitement légitimes, vous avez l'obligation de rendre publiques absolument toutes les données que vous produisez. Ensuite, il faut choisir les données que l'on rend publiques. Par quoi on commence ? Parce que le périmètre peut être très large. Il se trouve que nous avons des obligations légales renforcées, qui concernent les marchés publics par exemple, les subventions versées, les délibérations, les décisions en matière d'urbanisme, de mobilité ou d'équipement. Et en matière de contrôle citoyen, de lutte contre les conflits d'intérêts, de transparence, de lutte contre la corruption, c'est aussi le point de départ qui est extrêmement intéressant. En matière de publication des données issues des territoires, il y a des cas particuliers qu'il faut traiter de façon plus précise. C'est le cas notamment des entreprises agissant dans le cadre d'un service public, ou des députés notamment, qui ne sont pas tenues tout à fait aux mêmes obligations. Il est important pour l'acteur public de bien contrôler ces zones qui sont parfois un peu grises, où il pourrait y avoir des conflits d'intérêts.
Jean-Marie, restons sur les aspects pratiques si vous le voulez bien. Auriez-vous quelques exemples d'utilisation de ces données une fois qu'elles sont rendues disponibles et publiques ?
Alors, en termes de transparence de l'action publique, il existe des obligations renforcées, notamment sur la décision et la commande publique. Les marchés publics, les subventions sont obligés d'être publiés en open data depuis 2017 avec des formats très précis. Et cette publication concourt sans aucun doute à une meilleure information, à un meilleur contrôle de l'action publique par le citoyen. C'est comme ça que l'on sait par exemple que la Philharmonie de Paris capte et de très loin la plus grosse partie des subventions du ministère de la Culture et que des voix se sont élevées pour demander si Paris manquait à ce point de lieux culturels en comparaison d'autres régions. Qu'on voit que la transparence a lieu dans ce cadre-là. On voit que la transparence et l'historique des votes des députés sur les lois et les amendements permet aussi de rester très attentif non seulement à leurs choix politiques, mais aussi aux conflits d'intérêts potentiels. Et pour terminer, on peut dire que la crise du Covid et la généralisation des données relatives à son suivi a donné encore un très bon exemple. Je voudrais insister ici sur trois points essentiels. D'une part, nous voyons bien que les démarches d'appropriation citoyenne, d'accompagnement des citoyens pour connaître et comprendre cette chose-là, sont indispensables et à beaucoup d'égards insuffisantes. Il faut donc mieux former les citoyens. Le contrôle démocratique que les habitants peuvent exercer sur la puissance publique, quelque chose d'extrêmement sain dans une démocratie. Ce n'est pas quelque chose dont nous avons à craindre. Mais ce n'est pas une chose naturelle, il faut y travailler. Ensuite, l'information publique, basée sur des faits objectifs, c'est-à-dire des données et pas des commentaires ou des promesses, est le meilleur rempart contre les fake news, la manipulation et la désinformation. Cela vaut pour l'analyse et le suivi des politiques publiques en général, cela vaut pour l'action et l'éthique de nos élus. C'est le cas des déclarations sur le patrimoine ou les conflits d'intérêts menés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Avec encore un peu de retard sur la notion d'open data, cela étant, puisque dans certains cas, les documents ne sont pas en open data, mais sont des documents papier griffonnés. Mais ça viendra. Enfin, il est remarquable que les données publiées soient rarement à l'origine de la détection d'un comportement répréhensible. On a peur parfois de la transparence, mais finalement, l'ouverture des données a comme désamorcé le risque de malversation. C'est une forme de sécurité, de rempart. Et donc, tous les yeux se tournent plutôt vers les informations qui ne sont pas publiées. Est-ce légitime de ne pas les publier ou y a-t-il une mauvaise raison pour ne pas le faire ? Quelque chose à cacher peut-être. On voit que l'open data est de ce point de vue-là très vertueux. La réalité, c'est que certains domaines sont encore protégés. Au titre de la protection de la vie privée, du secret commercial, industriel. Je ne dis pas qu'un monde totalement transparent soit idéal. On a vu les dystopies comme 1984 ou d'autres romans. Mais il faut s'intéresser encore à ces zones grises où les intérêts, principalement économiques et privés, entrent encore en conflit avec la neutralité de l'action publique. Les délégations de services publics, l'action des lobbies, etc. Il y a encore du travail à faire pour une plus grande transparence.
Bien, Mais techniquement, comment faire pour au final avoir des données à rendre publiques et mises à la disposition des citoyens?
Lorsque l'on parle de publication des données, il est nécessaire d'avoir quelques compétences techniques, en effet. Mais il est aussi question d'acculturation, éducation au numérique, pour le dire autrement, d'organisation interne, de choix et de portage politique. Le premier conseil que je donnerai, si vous débutez, est ne restez pas seul. Il y a beaucoup de gens qui ont démarré l'Open Data en France, près de 900. Open Data France a par ailleurs produit de très nombreuses ressources gratuites pour aider les collectivités à se lancer. Au niveau local, cela peut être une métropole dans votre territoire, une région, un département, une commune voisine qui peut vous soutenir. Depuis 2016, Open Data France a mis en place un observatoire sur l'ouverture des données publiques dans les territoires. Toutes les régions sont couvertes. Il y a forcément quelqu'un à proximité de vous qui fait déjà de l'Open Data. Prenez contact, voyez ce qu'ils ont fait, évitez les écueils, profitez de l'expérience de ces pionniers, ne restez pas seul face à ça. Cela peut se faire avec des moyens extrêmement limités. Beaucoup de collectivités se sont inquiétées du coût pour mettre en œuvre un projet Open Data. Il faut savoir que Etalab, qui est le service de l'État qui s'occupe pour les administrations de l'ouverture des données publiques, met à disposition un outil, plusieurs outils pour être frais, un portail Open Data qui peut être utilisé gratuitement par les collectivités pour qu'elles mettent en œuvre leurs données publiques. L'action incrémentale est tout à fait adaptée dans ce contexte-là. On publie un premier jeu de données, on se rassure, on enregistre un premier succès et puis on poursuit la publication des données en ouvrant les données à d'autres périmètres. Cela permet d'améliorer d'un point de vue opérationnel les conditions d'ouverture et cela permet d'approfondir les données que l'on publie. Concernant le portage politique, c'est un travail de longue haleine, parfois ingrat. D'abord parce que les cycles permanents de changement du personnel politique, les élections sont très régulières en France, et les instances dirigeantes nécessitent un soutien incessant des projets engagés. D'autre part, parce que tout le monde n'est pas pareillement à l'aise avec la transformation numérique ou avec la transparence. Et les élus ne font pas exception. Pour cela, un travail de sensibilisation permanent à destination des décideurs et des citoyens est de ce point de vue très important.
Merci Jean-Marie Bourgogne. Je rappelle nos auditeurs et auditrices que vous êtes animateur du réseau des collectivités territoriales engagées dans l'ouverture des données publiques dans le cadre du projet Open Data. Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur Fréquence T, la web radio des agents territoriaux. Au revoir.
Mise au point. Le magazine des politiques publiques.